Bonsoir à tous. Alors que les chiffres du chômage connaissent une hausse conséquente, l'État met en place une loi pour le plein emploi. La préfète s'est rendue ce matin sur une agence de France Travail à Niort. Le marché du travail connaît des difficultés. Illustration à travers le cas Michelin qui ferme des usines à Cholet et Vannes. L'agglo de B a débattu de ses orientations budgétaires hier soir avec pas mal d'incertitudes puisque l'État n'a pas encore voté son budget. Reportage ensuite sur une plantation de haies réalisée en partenariat avec Bocage Pays Branché dans une exploitation agricole à Courlay. Enfin, Cholet Basket accueille Bilbao ce soir en FIBA Eurocup, coup d'envoi à 20h.
La météo, le temps qui commence à s'améliorer demain.
Le baromètre de l'emploi n'est pas au beau fixe en ce début d'année, un peu comme la météo dans la région et plus particulièrement en Deux-Sèvres. Le nombre de demandeurs d'emploi a fortement progressé. On en parlait en début de semaine. Au quatrième trimestre 2024, la progression des inscrits en catégorie A dépassait les 5%. La hausse est encore plus importante chez les moins de 25 ans, à plus de 7%. Une situation que la préfète des Deux-Sèvres a commentée ce mercredi matin en visitant une agence de France Travail à Niort. Emmanuel Dubé au micro de D4B.
Nous restons avec un taux de chômage inférieur à celui de la région, puisque nous sommes environ à 5,6%. Mais néanmoins, en effet, nous constatons un essoufflement de l'activité économique et des difficultés ciblées sur certaines entreprises. C'est une situation qui appelle à être vigilant, bien sûr, parce que ce n'est jamais satisfaisant d'avoir un taux de chômage qui augmente, même s'il reste à un niveau très faible. Et ce sont des situations dans lesquelles des personnes sont en difficulté et donc ça nous motive d'autant plus, nous, pouvoirs publics, pour les accompagner vers l'emploi.
Sur les 23 600 demandeurs d'emploi recensés en Deux-Sèvres, ils sont 11 900 dans la catégorie A. Alors, pour réduire ces chiffres depuis le 1er janvier, il y a la loi pour le plein emploi. Toutes les personnes en recherche d'un travail sont inscrites à France Travail. Les détails avec Isabelle Barsac, directrice territoriale Deux-Sèvres de France Travail.
Depuis le 1er janvier, sont inscrits auprès de France Travail deux catégories de manière automatisée, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas de démarche à faire. Il s'agit des jeunes qui se rapprochent des missions locales et il s'agit aussi de toutes les personnes qui vont demander le RSA, donc les nouveaux allocataires RSA ainsi que leurs conjoints. Ces catégories-là vont être inscrites de façon automatisée auprès de France Travail. Ce n'était pas le cas avant. À titre d'exemple, on avait 40% des allocataires RSA qui étaient inscrits auprès de France Travail, puisqu'il s'agissait d'une démarche volontaire de leur part. Avec la mise en place de cette loi, on vise 100% d'inscription auprès de France Travail et la personne sera accompagnée par le bon organisme, que ce soit une mission locale, le Cap Emploi, France Travail ou un travailleur social du département ou d'une structure qui travaille avec le département.
Et pour en savoir plus, il y a un numéro pour les bénéficiaires, le 0805 41 02 62, accessible gratuitement.
Le marché du travail connaît des difficultés, illustration chez Michelin.
En novembre dernier, Michelin officialisait la fermeture de deux de ses usines à Vannes et Cholet dans les prochains mois, avec respectivement 300 et 950 emplois concernés. L'entreprise explique cette décision par l'effondrement des ventes de pneus destinées aux camions et camionnettes, avec notamment une concurrence chinoise accrue. La semaine dernière, la commission des affaires économiques auditionnait Florent Menegaud, président de Michelin, une audition disponible en ligne sur le site du Sénat, comme le relevait ce matin judicieusement le Courrier de l'Ouest. Une audition intéressante lors de laquelle le patron de Michelin a dit ceci.
Sur Vannes et Cholet, ça n'est pas une décision prise court terme. C'est la fin d'un cycle sur Cholet de 50 ans. On a investi, développé, redéployé, mais on est arrivé au bout de ce qu'on arrivait à faire sur ce site. Ce site était le plus cher du monde pour fabriquer des pneus de camionnette, était peu chargé parce qu'on a perdu des parts de marché et puis qu'on ne peut plus exporter à partir de l'Europe parce que ça n'a aucun sens économique. Je peux vous garantir que chez Michelin, la fermeture d'un site, c'est un événement extrêmement grave. On le prend vraiment en dernier ressort. Donc on a étudié toutes les possibilités, mais on ne voit pas ce qu'on peut faire.
Et le président de Michelin a profité de son audition devant la commission des affaires économiques du Sénat pour dire ce qu'il pensait du coût du travail en France.
Le coût pour l'entreprise, pour 100 euros bruts versés en France, le coût moyen pour l'entreprise c'est 142. Le salarié lui va toucher 77,5. Les mêmes 100 euros versés en Allemagne, l'entreprise, ça va lui coûter 120 et le salarié va toucher 80. Donc c'est normal qu'en France, les salariés râlent parce qu'eux, ils touchent 77,5. Et c'est normal que les entreprises râlent parce que ça leur coûte 142. Le coût salarial en France pour l'entreprise, il est trop élevé et le net perçu par les salariés est trop faible. Et donc, à un moment, il faut traiter ce sujet parce que derrière, quand on parle de réindustrialisation, si on n'aborde pas ce sujet-là, ben, on ne pourra pas avancer.
Florent Menego, président de Michelin, lors de son audition devant la commission des affaires économiques au Sénat, vous pouvez la consulter en intégralité sur le site de Public Sénat. Les gendarmes de la compagnie de Niort attendent les résultats des analyses toxicologiques réalisées sur un homme de 39 ans, victime d'un accident hier soir au rond-point Malvaux qui dessert l'A83 à Échiré, alors qu'il circulait sur la RD743. Ce Vendéen a perdu le contrôle de son Audi A6. Les pompiers ont dû le désincarcérer avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital pour des examens de contrôle. Les contrôles sanguins ont fait suite à la découverte de canettes de bière vide dans l'habitacle.
L'agglo de Bé a débattu de ses orientations budgétaire ce mardi soir.
Un rapport d'orientation budgétaire plus précisément, puisqu'il n'y a pas eu de débat contradictoire suite à la présentation réalisée conjointement par Claude Pouzin, le vice-président en charge des finances, et Franck Duforet, responsable du pôle financier. Un contexte budgétaire qui s'inscrit au conditionnel, puisque l'État n'a toujours pas voté son budget. Prudence mais confiance au moment de commenter les orientations budgétaires. Pierre-Yves Marolleau, le président de l'agglo, a utilisé cette formule.
Oui, prudence, parce que chaque année, on a de la peine à équilibrer un budget. Un budget, c'est toujours compliqué. Je rappelle que sur l'ensemble de nos budgets, on est à plus de 120 millions d'euros. C'est pas une petite paille. Et puis, confiance, parce que on se désendette de manière assez nette. Sur 3 ans, on est passé de 33 millions d'euros à 27, 6 millions de moins, ce qui nous laisse la possibilité d'emprunter sans risquer d'endetter davantage l'agglo, qui est peu endetté finalement. Donc voilà, l'année 2025, qui sera la dernière année complète quand même du mandat, s'annonce correct. Encore une fois, j'espère qu'on aura plus d'éléments quand même le 18 mars prochain lorsqu'on votera réellement le budget.
Le budget de fonctionnement n'est donc pas simple à équilibrer avec des dépenses contraintes. C'est le cas pour les charges de personnel qui grimpent de 7% en s'établissant à plus de 14 millions d'euros, 900 000 euros de plus qu'en 2023. Une augmentation subie pour une bonne part selon Claude Pouzin.
On se l'explique pour une bonne moitié sur des choses qui sont pas dépendantes de l'agglo, hein. C'est des revalorisations sur les grilles indiciaires, c'est la valeur du point, c'est un certain nombre de charges patronales, notamment au niveau de la CNRACL pour les agents de la fonction publique qui augmente. Et puis on avait aussi acté à une époque le régime indemnitaire en deux temps. Il y a eu à partir de mi-2023 une partie du régime indemnitaire qui a été revalorisée et on l'a en année pleine sur 2024, ce qui justifie cette augmentation aussi. Mais sans rien changer, on a déjà la moitié de ces charges qui ne sont pas dépendantes de notre volonté.
Soulignons tout de même que l'agglo de Bé a consenti une prime de 42 000 euros pour ses agents et qu'elle doit aussi pouvoir s'aligner quand il s'agit d'embaucher des profils rares dans la sécurité informatique, par exemple. 9 mois après l'effondrement d'un mur de soutènement sur la voie publique rendant impossible toute circulation sur la côte de Crevant à proximité du camping de Thouars, la situation juridique va-t-elle se débloquer? Un bras de fer s'est engagé entre la ville de Thouars et le couple Leblanc. Le maire de Thouars a envoyé une mise en demeure d'effectuer les travaux avec en creux une menace plus ou moins tacite de démolition de la maison appuyée sur le mur. Or, le mur et son entretien relèvent de la collectivité. L'affaire a été feuilletonnée par la presse locale, mais ce mercredi, le couple a fait appel à l'émission de Julien Courbet sur M6. Une réunion de conciliation cet après-midi pourrait déboucher sur un accord entre la mairie et le couple de propriétaires. L'émission de ce jeudi devrait relayer le résultat.
Le chiffre du jour, Fabien, 374.
Le Puy du Fou a confirmé avoir racheté 374 hectares de foncier autour du Grand Parc sur les communes des Herbiers, de Chambéry et Les Épaisses. Nous avons signé des baux ruraux de longue durée, a précisé Nicolas de Villiers dans Ouest France ce matin. Le journal qui indique que le Puy du Fou travaille sur le développement d'un projet en Angleterre.
Nouvelle plantation de haies assurée par Bocage Pays Branché.
La semaine dernière, deux exploitations ont pu bénéficier de cette opération, dont celle l'hôpital de Léopold Hénon à Courlay, installé en bio avec 150 brebis et 30 vaches allaitantes. Celui qui fait également de la vente directe à la ferme a candidaté auprès de l'association afin de bénéficier du financement de la plantation d'un kilomètre de haies, assuré par des élèves de seconde de la MFR Lagrange de Bressuire dans le cadre de leur formation. Léopold Hénon.
Il y a une classe de Lagrange qui est venue intervenir pour planter une haie suite à un projet porté par Bocage Pays Branché.
En quoi c'est important de planter cette haie ?
Pour permettre de faire de l'ombre pour les animaux, également éviter l'érosion. Il y a un kilomètre de haie au total, en bordure de route, milieu de champ, pas mal d'endroits différents.
Financièrement, ça se passe comment ?
Financièrement, le projet est porté à 100% par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc tout est subventionné, les plans, la main-d'œuvre, le paillage et également le travail du sol. Le coût global s'élève à 22 000 euros.
Depuis près de 30 ans, l'association Bocage Pays Branché participe ainsi à la plantation de haies bocagères sur les territoires du nord de Sèvres et principalement donc en bocage. Alain Péridi, y est technicien agroforestier au micro de Patrice Bémanangy.
On accompagne sur le dossier de subvention, le dossier administratif, et puis évidemment tous les conseils techniques. On est déjà venu nous sur le terrain pour repérer les sites, les objectifs des haies, comment est-ce qu'on va les créer. Et puis c'est des essences adaptées au territoire, c'est l'objectif. Et en plus, Léopold Hénon a de l'élevage ovin et bovin, et donc du coup ces haies vont aussi servir pour le bien-être animal. Donc tout ça c'est fait en avant, là c'est vraiment la concrétisation.
Quelles essences choisies justement ?
Alors la palette végétale, nous dans le bocage est assez vaste, on a globalement une 25-30 essences champêtres différentes. Mais là, pour en citer quelques-unes, on a du cormier, on a du chêne, on a du merisier, de l'aubépine, du troène, du cornouiller sanguin. Donc il y a une part des essences qui sont classiques dans le bocage. Et puis après, ça arrive qu'on ait 2-3 essences que l'on mette par rapport au changement climatique, comme l'érable de Montpellier.
Une belle matinée de plantation de haies sur cette exploitation courlitaise assurée par des élèves de seconde, conduite et gestion d'une entreprise agricole. Héloïse et Tom suivent cette formation.
Lui, il avait passé un coup de décompacteur avant et nous, après, on a tracé pour mettre les bambous et après, on a donc creusé des trous, planté les arbustes et rebouché derrière.
C'est la première fois que vous participez à ce genre d'action ?
Oui, c'était la première fois en 2 ans, donc ça permet de découvrir aussi.
Est-ce que c'est compliqué ?
Non, ça va. C'est une cohésion de groupe en soi, donc c'était sympa à faire.
Voilà, reportage réalisé par Patrice Bémanangy jeudi dernier sur l'exploitation de Léopold Hénon au lieu dit les champs de la Plénelière à Courlay. D'autres exploitations vont aussi connaître une opération similaire chez Frédéric Soulard à Saint-Amand-sur-Sèvre le 5 février puis chez Nicolas Gandrillon le 6 février à Moutier-sous-Chantemerle.
Qui sera dans le théâtre de Verdure l'été prochain ?
Il est encore temps de faire vos paris sur la programmation du Festival de Poupées qui sera dévoilé demain matin à 10h, la soirée rap dans la clairière avec DJ Snake et le concert de Robert Plant à Saint-Malo-du-Bois ont déjà été annoncés. Reste à voir maintenant ce que nous réserve le festival en juillet prochain. Le tribunal de Bressuire accueillera les 7 et 8 mars prochains le spectacle Gisèle Halimi défendre de la compagnie de l'ouvrage à 20h30, un lieu atypique pour ce solo qui appelle à maintenir et éveiller la même vigilance pour les libertés, faisant résonner les combats d'hier avec ceux d'aujourd'hui. Proposition de la ville de Bressuire, on en reparlera.
Le sport, Fabien, sur les baskets accueille Bilbao ce soir en FIBA Europe Cup.
Les deux équipes sont qualifiées pour les quarts de finale de cette compétition européenne. À l'aller, les Basques ont pris un point de plus, qui ont un point de plus au classement. L'AV a emporté 95-88 sur la formation scholtaise. L'enjeu, c'est donc la première place du groupe. Si tant est que cela procure un avantage sur la suite de la compétition. En tout cas, c'est une confrontation intéressante qui se profile ce soir avec deux équipes aux caractéristiques assez proches, avec des rotations permanentes. Fabrice Lefrançois au micro de François Larue.
C'est jamais vraiment les mêmes joueurs, le danger vient de partout. Il n'y a pas de... Enfin, le meilleur scoreur, je crois qu'il est à 11 points, 12 peut-être avec Pansar, après les autres ils sont à 10, 8, 9. Donc ouais, il y a beaucoup de similitudes ouais, dans la façon de jouer.
Donc vraiment là, la clé c'est l'intensité.
Ouais, l'intensité et puis il y a quand même des éléments où j'aimerais qu'on soit un peu plus juste. On a perdu un petit peu en justesse dans nos fondamentaux d'exécution.
Cholet Basket Bilbao, c'est ce soir à 20h à la Meilleraie. À suivre sur Colline évidemment, aux commentaires François Larue et Jérémy Maginot.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Ça commence à se calmer un peu, Fabien.
Oui, la pluie se calme avant de disparaître totalement en soirée. Le vent, lui aussi, se calme. Après un tout début de journée dominé par les nuages ce jeudi, avec encore un peu de pluie, les éclaircies se développent ensuite plus ou moins et la pluie disparaît pour le reste de la journée. Du vent encore demain avec des rafales à 40-45 km/h l'après-midi. Les températures 5 à 7 degrés demain matin au lever du jour. 8 à 10 pour les maximales.
Voilà pour toute l'info près de chez nous en ce mercredi 29 janvier, cette édition du soir. Merci Fabien. Le retour demain matin.
Demain matin à 7h avec Patrice. Bonne soirée.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.